RCF.
Il y a 4 ans, Bruno Gauthier s'est vu proposer une mission à la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Finistère, celle de coordonner la pastorale du second degré, une charge qu'il a acceptée sans pour autant renoncer à ses temps d'enseignement auprès des élèves comme professeur d'éducation physique et sportive. À bientôt 40 ans, il vit aujourd'hui pour transmettre ce qu'il a reçu lorsqu'il était enfant.
Alors ça n'a pas été un long chemin tranquille, voilà, il y a eu des hauts et des bas comme dans tout chemin de foi je pense, mais voilà, j'ai la chance d'avoir reçu une éducation chrétienne et des parents qui m'ont parlé du Christ tout petit. Après je me suis emparé un petit peu de cette question-là à l'âge de l'adolescence où il y a un moment où un autre, comme tout ado, on a dû dire qu'on n'était pas forcément d'accord avec tout ça et plaquer certaines choses pour y revenir d'une autre manière peut-être. Donc voilà, oui, le Christ fait partie de ma vie et voilà, j'ai une amie qui utilise une belle expression, c'est mon alphabet, c'est-à-dire c'est ma manière de m'exprimer dans ma vie et ma grille de lecture aussi de ce que je peux vivre au jour le jour, voilà.
Vous parliez de cette période de l'adolescence, de la jeunesse. Quand on se pose des questions, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué à ce moment-là de votre vie et qui ont fait peut-être que vous avez pris un chemin plutôt qu'un autre ?
Bah, tout à fait. Beaucoup de personnes qui, voilà, des visages qui m'apparaissent là. Et quand je relis un petit peu ma vie à mon âge de, c'est pas encore vieux, mais voilà, je vais passer le cap de la quarantaine. Donc, on relit des choses, c'est vrai. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes sur mon chemin qui m'ont donné le goût de certaines choses et qui m'ont éveillé à cette question de la foi. Je repense notamment à un chef scout, j'ai fait du scoutisme, qui m'a mis en lien avec la nature, qui m'a mis en lien avec les autres et qui, voilà, des chefs scouts, notamment mon chef, la Pierre, à l'époque, qui m'a montré que bah, avec les autres et ensemble on vit encore d'une manière plus belle que tout seul. Le Seigneur, il peut pas nous rejoindre si on est persuadé d'être le plus fort, d'être le centre du monde. Et quand on est ado ou quand on est enfant, bah voilà, il y a cette tentation, et même quand on est adulte encore, de vouloir se dire qu'on est maître de tout et on peut tout maîtriser. Et bien l'humilité fait partie, je pense, d'une des composantes de, ou en tout cas d'une posture qui doit permettre justement au Seigneur de venir nous rejoindre et de nous dire qu'on, voilà, on peut confier, on peut lâcher prise sur beaucoup de choses. Et la nature justement nous permet de nous relier au monde et de nous dire qu'on est un maillon de la chaîne parmi voilà, un plus grand tout. Et voilà, que la nature, avec la nature, on a à apprendre beaucoup. Et aujourd'hui encore, ça m'habite profondément. Voilà, il y a des personnes comme Pierre Rabhi, comme voilà, des gens qui réfléchissent sur l'écologie et sur la manière d'habiter le monde aujourd'hui pour que ça se passe le mieux et qu'il y ait une place pour chacun sur cette planète.
Vous disiez justement cette tentation de se sentir le plus fort du monde. Vous êtes professeur d'EPS. Dans le monde du sport, il y a cette tentation-là de se surpasser. C'est compatible ?
Alors, c'est vrai que quand on dit sport, on pense tout de suite culte de la performance. Bon, on se bat, nous, un peu les profs d'EPS pour dire EPS et pas sport, parce que justement, on est des éducateurs avant d'être des entraîneurs. Même les entraîneurs sont aussi éducateurs, mais voilà, en travaillant dans l'éducation nationale, on est... comment dire, on est des passeurs, c'est-à-dire qu'on se sert des activités sportives pour élever, pour éduquer, pour faire grandir. Et du coup, la performance n'est qu'une petite partie, j'ai envie de dire, de notre métier. Et on essaye de pas trop la mettre en avant, puisque une éducation physique et sportive belle et adaptée aux élèves, c'est une éducation physique et sportive pour tous les élèves. Donc, le petit, le grand, le pas sportif, voilà. Et c'est plutôt le langage du corps qui nous importe, nous. Donc on réduit maintenant cette notion de performance pour vraiment utiliser ces activités au service de l'élève pour le faire grandir et très souvent aussi dans un collectif, c'est-à-dire apprendre à vivre ensemble et grandir ensemble.
Alors quand la question s'est posée pour vous justement de devenir enseignant et en l'occurrence de sport, vous avez tout de suite choisi l'enseignement catholique par conviction, Bruno Gauthier ?
Alors, c'est une question qui m'a habité. En effet, au moment du choix fatidique où il faut choisir d'enseigner dans le public ou dans le privé, comme on dit, dans l'enseignement catholique. Donc, je me suis vraiment demandé, est-ce que je voulais avant tout être un prof d'éducation physique et sportive ou est-ce que je voulais être autre chose et enseigner peut-être d'une manière différente. Et donc, la question s'est posée, en effet, de ma foi et de ma posture d'éducateur et d'enseignant. Qu'est-ce que ça allait changer, en effet, d'être dans l'enseignement catholique? Et donc voilà, je me rappelle il y a une quinzaine d'années, puisque maintenant ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'enseignement catholique, de m'être posé ces questions-là et d'avoir questionné des adultes à l'époque pour essayer de m'aider à discerner. Ça, c'est un grand mot aussi, discernement, que notre Église et puis la foi aident quand on a des choix importants à faire dans la vie. Donc oui, cette question s'est posée et elle m'habite encore, même du coup si je suis davantage engagé maintenant qu'il y a une quinzaine d'années, puisque j'ai réussi à relier des choses et à mettre du sens dans certaines postures, du sens qui n'est pas toujours facile à mettre quand on débute une carrière d'enseignant.
Qu'est-ce que ça change alors aujourd'hui d'être enseignant dans le public ou dans le privé, comme on dit? C'était une vocation.
En effet, je pense qu'on peut parler de vocation parce que ce sont des... Avant tout, et avant de parler de foi qu'on pourrait faire vivre ou proposer à des élèves, c'est avant tout une posture, c'est-à-dire habiter cette mission d'éducateur peut-être d'une manière différente, c'est-à-dire en mettant un peu plus de sa personne reliée à sa foi pour les enseignants qui ont la foi, parce que dans l'enseignement catholique, il y a une diversité qui est belle aussi de s'apporter mutuellement. Voilà, il y a des croyants qui vivent leur métier avec cette foi et puis d'autres qui en sont un peu éloignés ou qui se posent la question tout simplement. Donc des postures déjà ou des choses toutes simples, éclairées sans doute par des postures du Christ, c'est-à-dire un bonhomme qui a vécu il y a 2000 ans et qui nous interpelle encore aujourd'hui. Sa manière de rentrer en relation avec les autres, voilà, nous interpelle encore aujourd'hui, c'est-à-dire que l'accueil dans une classe ou la proximité avec les élèves, essayer de mettre un prénom sur chaque élève et d'apprendre à le connaître, c'est-à-dire d'éviter penser que groupe classe, mais personne, des personnes qu'on a en face de nous et des personnes qui sont en devenir. Donc, par exemple, comme faisait le Christ, sans doute, déjà rentrer dans la relation et apprendre à rencontrer l'autre, de savoir qui il est, de l'imaginer plein de richesses, mais aussi sans doute avec des fragilités, des failles, mais ne pas le réduire justement à ses failles. Donc, quand on a un élève un peu rebelle ou violent ou qui n'est pas bien dans ses baskets, voilà, plutôt que se dire « bon, bah celui-ci, il est mal parti, je ne peux pas grand-chose pour lui », essayer d'avancer, faire un bout de chemin avec lui. Donc cette proximité, cette attitude déjà est importante. Voilà, je retiens un axe qu'il y a dans le projet pastoral de l'enseignement catholique, faire de l'école un lieu d'éducation habité par l'esprit évangélique de liberté et de charité.
Finalement, ça passe par des toutes petites choses du quotidien, de votre mission d'enseignant.
C'est ça. Je retenais cette belle phrase, je ne sais pas si c'est le frère Roger qui l'a dite, mais ne parle de Dieu que si on te le demande, mais vis de telle manière qu'on te le demande. C'est vrai. Je me pose la question aujourd'hui si ça suffit, c'est-à-dire que j'ai l'impression que on a des générations là de jeunes et de jeunes adultes aussi qui ont soif, mais des fois une certaine indifférence quand même aux faits religieux et on pourrait se dire ben voilà, on vit en chrétien, mais il faut aller un petit peu au-delà pour les interpeller, c'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre. Pour rencontrer le Christ, en fait, il faut déjà qu'il sache que ce Christ, il existe. Voilà, il faut être capable de l'annoncer et de le faire vivre aussi. Je me souviens d'une conférence là, de Mgr Ricard au secrétariat général de l'enseignement catholique à Paris qui disait que faut se méfier de ce terme de valeur chrétienne, c'est-à-dire lui disait qu'il fallait aller plus loin et réussir à faire vivre des expériences à nos élèves et l'expérience d'une rencontre, puisque la spécificité de la religion catholique, c'est... voilà, c'est pas une religion du livre, c'est vraiment une religion de la personne, de la rencontre d'un Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait voilà homme parmi les hommes. Donc je me souviens juste l'année dernière de l'Arche et des personnes de l'Arche, personnes ayant un handicap mental qui sont venues rencontrer les élèves. J'ai vu des adultes chamboulés de voir comment ces personnes, avec leur fragilité, renversaient l'ordre des choses. C'est-à-dire que la fragilité devenait belle et grande et pouvait faire des grandes choses. On voyait des regards d'élèves se transformer, des regards d'enseignants se transformer. C'était beau. L'évangile, comment dire, en acte aujourd'hui.
Chante, ce qui rend heureux. Chante ce qui rend heureux. La nuit, le froid n'auront jamais raison de toi si tu chantes ce qui rend heureux. Chante, la vie est belle, chante ce qui est beau autour de toi, chante, ne cesse pas. Chante ce qui rend heureux. Chante ce qui rend heureux. La nuit, le froid n'auront jamais raison de toi si tu chantes ce qui rend heureux.
Bruno Gauthier, on l'a dit, donc vous êtes aujourd'hui coordonnateur pastoral, donc au sein de la direction diocésaine de l'enseignement catholique dans le Finistère. Ça fait 4 ans, mais avant cela, vous avez été engagé en pastoral dans les établissements où vous avez enseigné. Dès le début, ça a été une évidence pour vous d'être engagé à ce niveau-là.
Alors, dès le début, je me suis posé la question. Par contre, dès le début, je me suis pas engagé de la même manière que je me suis engagé et je m'engage maintenant, ça c'est clair. Je revois des jeunes enseignants là qui débutent et que je sais croyants et chrétiens et qui se posent ces mêmes questions que je me suis posé il y a 15 ans, c'est-à-dire où on met le curseur, jusqu'où on témoigne, jusqu'où on a droit de parler de sa vie ou de Dieu. Alors, on est dans l'enseignement catholique, donc on peut le faire en respectant vraiment la liberté de chacun et de nos élèves aussi, parce qu'il y a vraiment cette diversité aussi, y compris diversité religieuse. C'est-à-dire qu'on a, quand je m'adresse à mes élèves et que je parle de ma foi, je ne sais pas qui j'ai en face de moi, donc je parle de ma foi et du Dieu des catholiques. Il y a peut-être certains élèves en face de moi qui ont un autre Dieu. Et dès le début, je me suis posé ces questions-là. Alors, avec la facilité, peut-être, c'est vrai, d'avoir souvent une guitare entre les mains. Alors, ce qui peut paraître bizarre, point. Je fais pas mes cours de PS avec une guitare, mais la musique, je pense, est un bon moyen de me relier encore là aussi les choses. C'est-à-dire que ça aide à faire passer des choses par le cœur, puisque quand la musique est là, il y a des choses bizarrement qui passent plus facilement, et notamment, je pense, le Seigneur qui passe par la musique, les mots.
C'est un outil.
C'est un outil. Voilà, le pape François n'arrête pas de nous le dire. La foi, c'est la joie de l'évangile. Quand on est croyant, on ne peut pas se permettre de faire la tête, même si des fois, il y a des moments forcément plus difficiles. Mais voilà, la musique, le chant est là pour aussi nous permettre de vivre notre vie en accord avec les émotions et les choses qu'on ressent. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois c'est triste, des fois c'est dur. On a droit de le chanter, on a droit de le dire. Il y a des psaumes qui sont des fois violents où on s'adresse à Dieu et on dit voilà, merde Seigneur, pourquoi le monde il est comme ça, pourquoi il y a telle personne qui est décédée, pourquoi c'est dur. Et puis des fois je dis des fois aux élèves, voilà, quand vous ressentez de la joie ou quand vous êtes heureux face à un beau paysage ou quelque chose qui vous touche, vous avez le droit de le dire avec vos mots et vous avez le droit de le chanter. Voilà, c'est ce qu'on appelle la louange. Et ça, c'est une grâce et c'est une chance, je trouve, quand on a la foi, de pouvoir le mettre en chanson et de le vivre. Ça, les jeunes d'aujourd'hui nous interpellent beaucoup.
Finalement, c'est là que la musique et le sport se rejoignent, parce qu'il y a aussi cet engagement physique. Ça peut aussi passer par là, la foi.
Oui, ça passe par le corps, justement. Alors, j'ai tendance à dire que la foi et le Seigneur passent par les cœurs, en effet. Et on a eu des fois trop tendance, nous les enseignants aussi, à trop intellectualiser les choses et à vouloir expliquer, théoriser. J'ai envie de dire, même la théologie, pour qu'elle soit adaptée et comprise de tous, il faut que ça passe par de la pratique. Donc, oui, le corps, forcément, de par ma mission de prof de PS, ça me parle. Et j'ai envie de dire que la musique, c'est aussi le corps. C'est-à-dire que avec un instrument, il y a des choses qui vont passer par des accords, des notes, une intensité dans la voix ou dans la manière de jouer. Et il y a plein de belles choses, oui, qui passent par la musique.
Quand on veut toucher des jeunes, Bruno Gauthier, la forme, elle est importante. On sent qu'il y a une réflexion pour vous sur comment transmettre la foi. Il faut réfléchir à ça pour leur donner le goût.
Alors, c'est vrai que la forme, pour moi, a presque autant d'importance que le fond, particulièrement aujourd'hui dans une société où, en fait, les jeunes baignent dans un bain d'informations, d'images, de flow, parce que le temps s'est accéléré avec Internet. La foi, où Jésus fait partie d'un ensemble d'informations, de connaissances, d'expériences qui vivent, c'est-à-dire des stimuli où il y en a presque trop. Et du coup, en effet, la manière d'aller accrocher ou d'aller leur rejoindre les jeunes, c'est-à-dire la forme, est importante, je pense. Voilà, on est dans une société de l'image. Donc, il y a des choses qu'on peut plus se permettre aujourd'hui parce qu'en fait, ils vont décrocher ou on sera pas crédible.
Au bout de 4 ans, la direction diocésaine, vous avez l'impression justement que cette réflexion-là, elle avance, elle est toujours en cours. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres moins, et que petit à petit, ça suit son cours.
Ça avance dans l'enseignement catholique. Dans l'Église, ça avance aussi. On aimerait que ça avance un peu plus vite. Je crois que les jeunes sont réunis là en synode en ce moment avec le pape François et les cardinaux. Et je crois qu'ils poussent, ils vont pousser fort pour que ça avance encore davantage. Quand je disais on a à se laisser évangéliser, en effet, se laisser bousculer par les jeunes, c'est ça. Nous sommes des éducateurs, donc on a à les aider à remettre les choses des fois un petit peu en place, mais on a à modifier nos manières de faire. J'ai l'impression que oui, dans l'enseignement, ça évolue dans notre manière de faire. C'est dur aujourd'hui de faire sans du numérique, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut de la tablette, du numérique et de l'écran partout. Ça veut juste dire qu'il faut les utiliser à petite dose et que, par exemple, éduquer à aller chercher la bonne information et différencier ce qu'est une connaissance, quelque chose qui a été travaillé, qui a été vérifié, d'une juste une info qui est transmise par un YouTuber qui est fun, qui est cool, qui est, ça fait partie du job des adultes, je pense, et des éducateurs d'aujourd'hui.
Vous parliez tout à l'heure de cette phrase de faire en sorte qu'on vous demande de parler de Dieu. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez en tête des élèves qui le prof de sport, c'est peut-être à lui que je pourrais aller demander telle ou telle chose dans leur vie, être à votre tour un témoin?
Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment sensibles justement à notre manière d'être et ils le sentent tout de suite, c'est-à-dire que ils sont forts pour ça, c'est-à-dire que ils voient quand on joue un jeu ou quand on est vrai ou quand on n'est pas vrai. Quand leur tournant des perches, ils la saisissent tout de suite et ils viennent nous voir. Donc, par exemple, je pense à un groupe d'aumônerie là qu'on a lancé dans mon établissement. Je vois bien comment les élèves, quand on leur donne cette liberté de pouvoir échanger sur des thèmes et cette proximité avec un adulte qui a vécu peut-être en effet plus de choses qu'eux, eh bien ils aiment cette proximité et pouvoir échanger. Rien que le fait d'accepter de passer du temps avec eux pour se poser des questions avec eux, c'est déjà un beau témoignage.
C'est là que ça donne du sens à votre mission.
C'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, je trouve. C'est quand on voit dans le regard de ces jeunes qu'à un moment ou un autre, ils se sont laissés transformer. Et moi, avec mon regard de foi, je me dis que c'est le Christ qui est passé là, peut-être furtivement, peut-être d'une manière comme on l'aurait pas imaginé, mais ils ont vécu quelque chose de fort et c'est peut-être ce qu'ils vont retenir plus tard dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, en disant « Ah, je me rappelle que dans ce rassemblement, j'ai entendu telle personne qui est venue me parler de son témoignage de vie, quelqu'un qui venait du Maroc et qui s'est engagé dans un café solidaire et ça m'a... » Voilà, je me rappelle, c'était le Secours catholique et ça me touche. Je me rappelle de cette personne qui est venue me parler de son service civique et qui a donné 1 an de sa vie pour faire le point. Je me rappelle de cette sœur qui est venue à la fin récupérer des lettres à Dieu qu'on avait écrites. Je savais pas trop ce que c'était. Je me rappelle que j'avais mis des mots forts et cette sœur, elle m'a dit « Tiens, on va prier pour vous et on va lire ces lettres-là avec la petite communauté, on va porter ce que vous êtes et vos vies et voilà. Il y a des choses qui passent et on n'est pas maître de tout, mais voilà, je pense que c'est le cœur de notre mission et là c'est beau quand on reçoit ça, j'ai envie de dire en pleine figure, ça nous porte, ça nous donne envie de poursuivre.
Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous ne pouvons rester cachés. Toutes les nations proclament.
Benoît Gauthier, quand justement on a cette charge-là de transmission, comment on fait soi-même pour se ressourcer ?
Alors exactement, le ressourcement est important parce qu'on peut très vite se perdre, y compris dans le service, et il faut être très vigilant. J'ai envie de dire que le mariage m'a permis cette réflexion sur bâtir sur le roc. Je m'en rappelle encore de ces textes qu'on avait choisis avec mon épouse Catherine. La famille, mon couple, mes enfants, c'est mon lieu de ressourcement, même si c'est pas toujours très calme et c'est des fois, les enfants, c'est il y a de la vie, ça bouge, ça. Mais néanmoins, c'est ressourçant. Mes moments pour me ressourcer, c'est avec ma femme, c'est-à-dire les moments où je suis un petit peu en retrait et où on vit des choses toutes simples, des balades où on discute de nos vies et on se porte mutuellement. C'est ma première priorité, c'est ma première vocation d'homme marié, j'ai envie de dire. Après, c'est d'être père aussi, puisque c'est une sacrée mission avec nos trois enfants qu'on porte, qu'on essaye d'accompagner. Ça aussi, c'est, j'ai envie de dire, ma mission de baptiser, c'est faire vivre des choses et transmettre des choses qu'on a reçues à nos enfants. Bien sûr, la foi qui prend une place importante dans la famille avec des moments tout simples de prière qu'on vit des fois au début d'un repas, des fois au cours d'une célébration, un temps de prière. Cette belle messe autrement aussi qu'on vit régulièrement où on essaye de donner une place aussi, y compris aux enfants, où on essaye de mettre un petit peu ce que nous on a vécu et de le faire vivre à d'autres en communauté. Voilà.
C'est la messe autrement, donc, ou la messe qui prend son temps. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, c'est une célébration qu'on a un petit peu adaptée à partir de nos expériences. Il y a une quinzaine d'années, peut-être plus, sur Brest d'abord. On était étudiants à l'époque, sans enfants, et on avait vécu des expériences, soit sur Paris, avec les jésuites, soit de mon côté, moi, c'était plutôt à la paroisse de Saint-Maurice, à Lille, d'autres à Strasbourg, et voilà, d'autres en pèlerinage à Lourdes, de célébrations belles, vraies, simples, où on n'a pas besoin d'être 500 pour vivre des belles choses dans la simplicité. Et on remet l'évangile au cœur, avec l'Eucharistie au cœur de la célébration, mais dans la relation aussi, c'est-à-dire que l'accueil, la convivialité est importante. Donc, célébration où on apprend à s'accueillir les uns les autres au début, célébration qu'on prépare en amont dans les partages de textes, où ça va nous porter sur une semaine, deux semaines, avant déjà cette célébration. Célébration où on va partager après la proclamation de l'évangile sur justement ces textes, on va échanger ou alors on va prendre juste un temps tout seul avec quelques pistes de réflexion, un cœur à cœur avec le Christ. Célébration où il y a des chants qui nous relient justement avec cette faculté naturelle, j'ai envie de dire, de louer Dieu. Et célébration qui se prolonge aussi avec un repas partagé. Tout ça, c'est un ensemble, c'est un tout qui fait que la foi et ce qu'on va vivre là, cette belle fête de l'Eucharistie, est relié à nos vies. C'est quelque chose qu'il faut qu'on redécouvre dans nos célébrations dominicales où des fois il y a des habitudes, des codes, des choses qui ça va de soi. Et il y a des choses qui se sont perdues. Voilà, s'accueillir les uns les autres, par exemple, pour moi, c'est hyper important au début d'une célébration. On ne vient pas consommer sa célébration, on vient vivre quelque chose ensemble. Donc on a besoin d'être reliés.
On sent que le vrai, le fond, c'est vraiment ce qui prime chez vous, Bruno Gauthier ?
Je ne sais pas si c'est le vrai, le fond. En tout cas, c'est vrai que j'ai tendance à... Je ne sais pas. Peut-être que je suis resté un petit peu ado, rebelle. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne pas prendre les choses comme ça, telles quelles, et d'essayer d'avoir un regard... un peu critique, j'essaye de faire passer ça aussi à mes élèves. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un adulte que c'est forcément la bonne parole. Faut remettre en cause les choses. C'est pareil pour l'information, c'est pareil pour la presse. Savoir croiser les regards. Dans ma foi, c'est pareil. C'est-à-dire que essayer de faire vivre sa foi avec ce qu'on est, avec d'autres, et de pas être spectateur, mais d'être acteur. On voit ça aussi dans l'écologie, hein, être consommateur. Dans la foi, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Et les prêtres nous invitent à ça, c'est-à-dire à prendre notre part aussi et à mettre ce que nous sommes, ce qu'on a envie d'être. Et le Christ, c'est ce qu'il a enseigné, je pense aussi, être dans la relation et relier sa vie avec cette foi en Dieu.